Vous écoutez On lit pour vous.
La philosophie de vie de Marie Trudeau. Quand une opportunité se présente, j'ouvre la porte. Texte d'Aline Van Compernol, paru dans la revue Paraquad numéro 170, été 2026. À 77 ans, Marie Trudeau fait partie de la deuxième génération des paraplégiques, comme elle le dit elle-même. La génération qui est arrivée après celle des anciens combattants, qui en 1946 ont fondé Mémo Québec, ou plutôt à l'époque la division québécoise de l'Association canadienne des paraplégiques. Après son accident, Marie Trudeau ne voulait rien entendre des associations de personnes en situation de handicap. Elle est finalement entrée à l'organisme et n'en est plus ressortie jusqu'à en devenir la directrice générale. Quand j'étais jeune, je ne connaissais pas d'autres personnes en fauteuil roulant, mais une fois que je suis allée à l'association, je n'ai pas pu en décoller. J'y ai trouvé des gens extraordinaires, raconte Marie Trudeau d'une voix émue. Elle décrit une atmosphère d'entraide qui était organisée par et pour les personnes lésées médulaires. C'était rare une association comme ça à l'époque. Il en existait pour les personnes sourdes et aveugles ou celles qui ont la paralysie cérébrale, mais pas pour nous. J'ai trouvé ça merveilleux d'être en contact avec des gens qui vivaient la même chose que moi, décrit Marie. À la suite d'un accident de voiture à l'âge de 18 ans, sa grande sœur, résidente en médecine, l'a aidée à « mettre les roues à terre », comme elle l'exprime. Elle m'a dit que j'étais devenue paraplégique et qu'on n'était pas pour trouver une guérison. Ma condition n'allait pas changer. Je l'ai assez bien vécu. J'avais un copain qui est resté avec moi. On s'est mariés et nous avons eu un enfant, raconte-t-elle simplement. Marie se souvient, quand elle amenait son fils à la piscine, qu'elle attirait beaucoup le regard des autres enfants et des parents. J'étais le centre d'attraction et les enfants posaient beaucoup de questions. Je leur répondais simplement la vérité. « Je ne marche pas, mais j'ai un beau fauteuil qui peut aller vite », rit-elle. 6 années à la rencontre des autres blessés médulaires. À son arrivée à l'association en 1977, Marie a appris sur le tas. Grâce au mentorat, elle est devenue conseillère en intégration. Elle se rendait au centre de réadaptation pour rencontrer les blessés médulaires. « J'ai de l'empathie. J'ai autant appris d'eux que je les renseignais », raconte Marie, qui garde un souvenir impérissable de ses 6 années à la rencontre des autres avant de devenir directrice de l'organisme, devenue en 1978 l'APQ, Association des paraplégiques du Québec. Si je pouvais seulement leur donner une petite mèche d'espoir, que ce soit les nouveaux ou les plus vieux. Quand ils me regardaient repartir, monter dans mon auto, mettre ma chaise et m'en aller, ils avaient l'exemple que c'était possible. Sourit Marie, qui garde un bon sens de l'humour et parle de l'importance du rire dans son métier. En 1967, année où elle est devenue blessée médulaire, la société comptait peu de femmes paraplégiques. En centre de réadaptation, Marie se souvient qu'elles étaient une minorité. Il y avait les tumeurs à la moelle épinière ou les passagères en auto. En ce temps-là, il était rare de parler des conséquences psychologiques d'une lésion, que ce soit la dépression, les drogues ou les suicides, même si Marie affirme que ces derniers n'étaient pas nombreux. La lutte pour les droits. En tant que directrice de l'APQ de 1983 à 1988, Marie Trudeau a connu de nombreuses évolutions au cours des années et a pris part aux changements qu'a connus la société. Nous avons travaillé avec la SAAC, la CSST et la Régie du logement. La création des centres d'expertise a été un mouvement très important. Les spécialistes nous ont beaucoup aidés à faire les démarches. Nous ne voulions plus que les paraplégiques se fassent opérer dans de petits centres régionaux. Ça a permis d'avoir moins de conséquences chez les paraplégiques, avec de meilleurs traitements au départ et une meilleure réadaptation, explique en détail l'ancienne dirigeante. À ce moment-là, il n'existait aucun réel suivi pour les personnes paraplégiques ou tétraplégiques en région. Les changements que Marie a vus se sont aussi faits dans la société. Le regard des autres a changé lui aussi au fil du temps. Les regards fuyants du passé ont fait place à des sourires. Toute militante qu'elle était, Marie Trudeau est allée maintes fois représenter et plaider la cause des personnes lésées médulaires dans des réunions, des colloques, des conférences, à la radio ou à la télévision. Il fallait être vu et entendu. Je ne restais pas dans mon bureau. À l'émission télévisée de Jeannette Bertrand, elle a parlé de la conduite automobile. À l'époque, l'association vendait des pièces pour adapter les autos. Marie était allée présenter le matériel à la télé. Une plaque en bois sur laquelle étaient placés les différents équipements. Des changements au fil des années. Pour le reste, il était souvent question de se débrouiller quand il s'agissait de trouver des accommodements personnels. Marie se souvient de son premier fauteuil roulant. Un fauteuil de 18 pouces de large en métal avec du plastique beige. Il était plutôt horrible, mais ma famille s'est cotisée pour m'offrir un fauteuil venu d'Allemagne. Celui-là était très élégant. Quand Marie s'est retrouvée en fauteuil, il n'était pas question pour les paraplégiques d'obtenir des fauteuils légers de la régie de l'assurance maladie. « Ça a été une belle bataille de l'association », se souvient l'ancienne directrice de la PQ. La RAMQ considérait en effet que les fauteuils roulants légers n'étaient nécessaires que pour les sportifs. Marie, qui était très agile, très souple et musclée, était allée expliquer avec d'autres collègues l'importance de mettre à disposition de tels fauteuils pour tous afin de se déplacer et de se propulser rapidement. Marie Trudeau a pris part à de nombreuses batailles de l'association, comme celle du droit au stationnement réservé. Elle a saisi toutes les opportunités qu'elle pouvait pour se joindre à des comités. Sa jeunesse, son bilinguisme, le fait qu'elle était une femme et son sourire attachant lui ont ouvert beaucoup de portes, selon elle. Marie a aussi su faire sa place grâce à sa curiosité, sa luminosité et sa bienveillance, décrit aussi Marie-Blanche Rémillard, ancienne présidente du conseil d'administration, qui l'a connue à l'école alors qu'elle n'avait pas encore sa lésion, puis l'a revue plus tard au centre de réadaptation. Après son départ de la PQ, Marie Trudeau a poursuivi son engagement auprès des personnes en situation de handicap au gouvernement fédéral jusqu'en 2005. Elle a aidé les regroupements à s'organiser et se battre pour leurs droits. Ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur ce qui se passait ailleurs au Canada. Je peux dire qu'au Québec, on n'était pas en retard sur les réformes et les programmes. Prendre soin de sa santé. Aujourd'hui, Marie s'est retirée de la vie publique, notamment à cause de sa santé. Il y a 10 ans, à 67 ans, elle a développé des problèmes de peau et a dû passer du temps allongée. « Moi qui étais toujours on the go, ça m'a beaucoup ralenti. Avec le vieillissement, je suis plus frêle et beaucoup moins souple. Depuis que j'ai une tendinite à l'épaule, je suis en fauteuil motorisé. Je suis chanceuse, j'ai pu habiter 37 ans dans une maison. J'y ai fait des gros changements. Grâce au programme d'adaptation du domicile, j'ai pu enlever ma baignoire pour mettre une belle douche », raconte-t-elle. Elle reprend. « Il y a 10 ans, les médecins disaient que les blessés médulaires étaient âgés de 15 ans de plus que les bipèdes. Maintenant, avec l'évolution dans le domaine de la santé, on ne dit plus ça. » Désormais, Marie se repose. Elle peinture, comme elle le dit, en groupe une fois par semaine. Elle a arrêté la chorale, mais joue au Scrabble en français et fait des mots croisés en anglais. Elle aime aussi beaucoup cuisiner. Marie Trudeau reconnaît qu'avoir été assise presque 60 ans n'a pas été facile sur son corps, mais elle sait que son sens de l'humour l'a beaucoup aidée à traverser la vie et se souvient avoir passé de nombreux moments à rire avec ses collègues de travail. Rédactrice des tout premiers paraquades. Marie Trudeau a participé à la rédaction des premiers paraquades. Avec son collègue Louis Martel, un tétraplégique à l'initiative de la création du magazine en 1975, elle imprimait les premiers feuillets sur du papier vert. Le magazine traitait de l'actualité du handicap. Marie se souvient par exemple d'un des premiers articles sur le projet de loi 9 qui allait mener à la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées adoptée en 1978. C'était nous qui écrivions les articles et on envoyait les feuillets par la poste. On renseignait les membres, on les tenait au courant. C'était le seul moyen de rester en contact avec eux. Au fil des années, le magazine a encouragé les gens à devenir membres. il en a aussi attiré de nouveaux, explique Marie Trudeau, qui a vu les nombreuses évolutions du magazine et est toujours ravie de le recevoir chez elle. C'était la philosophie de vie de Marie Trudeau. Quand une opportunité se présente, j'ouvre la porte. Un texte d'Aline Van Compernol, paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026.
Suggestions pour le 12 août. Des propositions de lecture d'Isabelle Beaulieu, Chantal Fontaine et Alexandra Mignot, parues le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. 1. Les chemins imparfaits. Lynn Vanier, parue chez Saint-Jean, 384 pages, $28.95. Léopoldine s'occupe de sa petite fille Charlotte parce que la mère de la fillette, Victoria, toxicomane, ne parvient pas à le faire. Léo a délaissé sa carrière de psy pour s'adonner à un art japonais d'emballage de cadeaux quelques jours par semaine, ce qui lui permet d'égayer le quotidien des gens. Tout en s'inquiétant pour Victoria, qui vient de fuguer du centre où elle purgeait une peine en suivant une cure, Léo essaie d'élucider qui se cache derrière l'admirateur secret qui lui dépose des livres et des fleurs chez elle. Ce roman lumineux, empreint de douceur et d'espoir, célèbre la vie, même quand elle prend des trajectoires tortueuses. 2. Celles qui ne savent pas mourir, de Marie-Hélène Sarrazin, paru chez Tête Première, 216 pages, $25.95. Ode à la nature et à sa force inénarrable, ce roman puise à même les récits du terroir, revendiquant entre autres ses influences à Maria Chapdelaine, tout en demeurant dans la modernité. Dans le village de Saint-Didas, pendant que les projets de développement du maire roi vont bon train, Blanche, Marine, Sarah, les sœurs Daou et la nouvelle Anaïs forment une cohorte hétéroclite de femmes prêtes à tout pour sauver l'essence du lieu. Mais Rose Nollet manque à l'appel. S'ensuit une recherche digne d'un polar apparaissant au milieu de manifestations surnaturelles qui donnent au livre le ton des contes fantastiques d'antan. Herbiers, décoctions de plantes, cartes divinatoires et fantômes peuplent ce livre à la langue chantournée à même les jardins qu'il s'évertue à faire fleurir. 3. De bon droit, de Christine Brouillet, paru chez Druide, 432 pages, $28.95. Sous de sordides violences meurtrières, Christine Brouillet en profite toujours pour déterrer des pans d'actualité sociale qui ramènent à notre conscience notre devoir de s'y pencher et d'y réfléchir. Cette fois-ci, la masculinité toxique et tout ce qu'elle engendre occupe le devant des scènes de crime et l'enquêteuse Maude Graham, confrontée aux plus atroces, ne reculera devant rien pour éclaircir ces calamités derrière lesquelles des hommes clament la légitimité de leurs actes. Un polar cruel qui n'est cependant pas sans éclaircie. 4. Nos poissons, de Éric Dupont et Mathilde Cinq-Mars, paru chez Marchand de feuilles, 96 pages, $35.95. Splendide album mêlant documentaire et récit. Nos poissons s'inscrit dans la même lignée que nos oiseaux, qui nous avait été offert en 2020 par Éric Dupont à la plume et Mathilde Cinq-Mars à l'illustration. Ce livre pour tous dresse un inventaire des différentes espèces marines habitant les cours d'eau du Québec. De la baudroie d'Amérique à la mulette perlière, en frayant également du côté du hareng, du crabe des neiges, du crapet-soleil ou de la méduse à crinière de lion. Ayant grandi à Matane dans le Bas-Saint-Laurent, Dupont connaît bien le littoral et se fait plaisir autant qu'à nous en se faufilant à travers les eaux, nous entretenant d'informations fascinantes et d'anecdotes savoureuses à propos des animaux marins et de leur territoire. On flanche pour les dessins ludiques de 5 mars qui ne font pas qu'agrémenter l'ouvrage, mais qui participent activement à en faire un objet dont on retourne les pages 100 fois plutôt qu'une. 5. Territoire été de Fabien Cloutier et Jean-Philippe Leclerc, paru chez L'Homme, 260 pages, $44.95. Avec la collaboration de Vanessa Bell au texte, les auteurs proposent un livre par saison pour célébrer la nature, explorer notre territoire et découvrir la pêche, la chasse et la cueillette. Ils parcourent plusieurs coins du Québec pour mettre à l'honneur des producteurs d'ici. Dans cet ouvrage-ci, on s'attarde notamment aux bières des Grands Bois à Saint-Casimir, au maïs de Neuville, aux champignons dans la capitale nationale et à la pêche au bar doré en Gaspésie. De plus, des recettes valorisent les produits locaux de cette période de l'année. On attend l'automne. 6. Grand cœur smat de Michel-Olivier Gasse et Rosalie Roy-Boucher, paru aux éditions du Quartz, 300 pages, $30. Dans ce monde où la solitude est légion, Michel-Olivier Gasse et Rosalie Roy-Boucher offrent un formidable pied de nez à ce qui nous isole. Par l'intermédiaire d'une correspondance qui s'échelonne sur 6 mois, ils et elles escaladeront librement les sentiers de l'amitié. Témoins de ces liens qui se tissent peu à peu, la lectrice ou le lecteur est métamorphosé par l'authenticité de ces cœurs qui se révèlent avides de liens et de franchise. Les échanges vont et viennent, s'abreuvant à la source de souvenirs vagabonds et de savoureuses anecdotes qui émeuvent et nous font fréquemment esquisser de tendres sourires. À notre tour, nous prend l'envie de créer des liens, de partager des connivences, d'aller tendre la main à son prochain, de vaincre le chagrin des âmes retranchées pour furieusement s'éprendre les uns des autres. Vous écoutez 12 suggestions pour le 12 août, des propositions de lecture d'Isabelle Beaulieu, Chantal Fontaine et Alexandra Mignot, parues le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. 7. Je n'y suis pour personne, de Marcel Labine, paru chez Les Herbes Rouges, 200 pages, $22.95. Alors qu'était annoncée la publication de ce recueil, nous apprenions quelques jours plus tard la mort de son auteur. Marcel Labine, grand poète québécois parmi les grands, souffle dans ce dernier livre les moments suspendus vécus avec sa conjointe, son ami, sa chérie, envolé avant lui. Celui qui, dès la parution en 1987 de « Papier d'épidémie », son premier livre, recevra un prix littéraire du gouverneur général, signe encore une fois un précieux sédiment de notre littérature en nous amenant à travers les voyages vécus avec la Dulcinée, l'amour étant sans doute le plus grand de tous. Avec une sensibilité jamais résorbée, l'écrivain poursuit ici une œuvre déjà féconde qui n'hésite pas à s'immiscer dans la torpeur pour en fouiller les tréfonds, nous projetant dans une sphère poétique vibrante et magnifique. 8. Les ravisseuses de Charles Dionne, paru chez Le Cartanier, 464 pages, $34.95. Après avoir publié 2 recueils de poésie, Charles Dionne entreprend un premier roman audacieux où l'horreur se fait la métaphore de nos fragments obscurs et tortueux. 4 amis se retrouvent à leur camp de chasse, tous liés par un effroyable secret, la fatalité déjà infiltrée au cœur du groupe. Quand 2 d'entre eux manquent à l'appel, les 2 autres imaginent de terribles éventualités. Annabelle, assaillie par d'impénétrables prémonitions, est hantée d'hypothèses sordides. Menée avec une verve haletante, le récit réfléchi à la portée de nos gestes et à la possibilité ou l'improbabilité de la rédemption. Noirceur et étrangeté imprègnent ce livre qui, une fois après en avoir refermé le couvert, n'en finit plus de nous tarauder. 9. Marcel et Bretelle, de Lily Chartrand et Clémentine Pochon, paru chez Deux, 32 pages, $20.95. Aux confins du désert vit le chien Marcel qui porte en lui la splendeur de la mer. Au creux des eaux habite la sirène Bretelle qui, quant à elle, ne pense qu'au soleil aveuglant du désert. Au milieu, une tempête et la rencontre des deux personnages. La volonté, la persévérance et l'ambition animent les deux héros. Ce sont ces vertus qui les mèneront à tout tenter pour accéder à leurs aspirations et vivre enfin leurs desseins les plus chers. L'autrice Lily Chartrand est loin d'en être à ses premières armes en matière de littérature jeunesse. Elle cumule des dizaines de titres qui la positionnent assurément en bonne place pour enthousiasmer les enfants avec ses aventures rocambolesques et touchantes. Quant aux illustrations de Clémentine Pochon, elles incarnent à merveille une histoire qui invite à la poursuite de ses idéaux. Dès 3 ans. 10. Toujours sur scène. Vivre avec le bégaiement, de Jean-Sébastien Bérubé, paru à la Pastèque, 168 pages, $32.95. Vibrant témoignage sur ce qu'est de vivre avec le bégaiement, la BD, toujours sur scène, pose un regard lucide et juste sur la perception des personnes qui doivent composer avec le bégaiement. Jean-Sébastien Bérubé raconte, de l'enfance à aujourd'hui, son parcours chaotique, teinté d'isolement et de marginalité, de colère et de tristesse. Comment se bâtir une personnalité, un avenir, si on ne peut pas parler sans faire rire les personnes à qui on s'adresse ou leur faire perdre patience? Si l'auteur a trouvé sa voix, V-O-I-E, et sa voix, V-O-I-X, c'est grâce à sa persévérance et à son éternel questionnement, convaincu qu'il y avait une solution. Son livre éclaire le sujet et offre un peu de lumière à ceux et celles qu'on entend peu et qu'on écoute bien mal. 11. L'été au ralenti, de Tania Boulet, paru chez Québec Amérique, 294 pages, $22.95. Cet été-là ne se déroulera pas comme Danaé l'avait prévu parce qu'elle doit accompagner son père sur la côte nord pour aider sa grand-mère. Même si elle aime passer du temps avec cette dernière, elle a l'impression qu'elle s'ennuiera loin de chez elle et de sa vie trépidante. Pourtant, elle apprend à ralentir, renoue avec ses racines et ce qui lui plaît. Partie de volley-ball, emploi à la crèmerie et nouvelles amitiés. Peut-être que l'amour pourrait aussi se frayer un chemin. Son séjour sera finalement inoubliable. Dès 12 ans. 12. Les méchants meurent toujours à la fin. De Hugo Meunier, paru chez Stanké, 384 pages, $29.95. Hugo Meunier réussit admirablement à composer des récits alliant gravité et dérision. Dans ce livre, l'auteur s'en donne à cœur joie et insuffle à son œuvre un puissant délire qui n'empêche cependant pas l'aisance et la limpidité des phrases. Une pandémie mondiale déclarée en à peine 48 heures force Adam à se rendre à l'ambassade du Canada à Berlin afin d'être rapatrié à bon port, à Montréal, auprès de ses proches. Dans ce moment de frénésie de haute voltige, des personnages bien connus s'immiscent dans le livre. Donald Trump, Boucard Diouf, Manon Massé et Marie-Claude Barrette n'en sont que quelques exemples. une façon d'ajouter aux divagations narratives, surtout que le fatal virus s'en prendrait aux plus méchants d'entre nous, laissant sains et saufs les plus vertueux. Un dernier sursis s'offre donc à ceux et celles qui voudraient se rattraper et entrer dans les bonnes grâces de la bactérie. Mais il reste peu de temps pour se repentir. Un solide carburant hallucinogène. Que ce roman! C'était 12 suggestions pour le 12 août, des propositions de lecture d'Isabelle Beaulieu, Chantal Fontaine et Alexandra Mignot, paru le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires.
Payez seulement le minimum dû sur le solde d'une carte de crédit pendant plusieurs mois. Un texte de Sylvie Lemieux, paru le 24 mai 2026 dans Bel Âge. Les finances personnelles et les questions juridiques sont parfois un vrai casse-tête. Des experts démêlent le vrai du faux. Ça casse. Cette stratégie évite un retard et protège votre dossier de crédit, mais financièrement, elle est loin d'être gagnante. Oui, le coût total du bien acheté augmente, ça, tout le monde le sait. Ce que plusieurs comprennent moins, en revanche, c'est la mécanique des intérêts. Beaucoup de gens pensent que le montant des intérêts diminue au fur et à mesure qu'ils effectuent des paiements. En réalité, les intérêts sont calculés sur le montant d'achat total et pas uniquement sur le solde impayé, souligne Youssef Gelach, président directeur général d'Éduc Finance. Des solutions. Si vous ne pouvez pas payer davantage, d'autres options existent. Par exemple, une marge de crédit ou un prêt personnel offre souvent un taux d'intérêt plus bas. Il est aussi possible de négocier un taux promotionnel en contactant votre institution financière ou de profiter d'un transfert de solde à taux réduit sur une autre carte de crédit dont les frais annuels sont plus bas. Cela peut générer des économies substantielles pour quiconque traîne un solde important, indique l'expert. C'était « Payer seulement le minimum dû sur le solde d'une carte de crédit pendant plusieurs mois ». Un texte de Sylvie Lemieux paru le 24 mai 2026 dans Bel Âge.